Grand Format, une émission culturelle et religieuse.
Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand Format. Vous entendrez Bénédicte Dujonquois et Anne-Laure Possel, conseillère conjugale pour le cabinet Raphaël, donner des conseils pour mieux communiquer en famille. Elles développent pour vous toutes les formes de communication. Communication physique, information, communication de la pensée, communication des sentiments, et donne des pistes pour faciliter la communication. Cette conférence ecclésiale a été enregistrée le 12 octobre 2019 à Nantes. Nous l'écoutons.
Donc bonjour à chacun, merci de votre présence. Tous comme vous êtes venus aujourd'hui, tout âge, toute situation de famille. Nous sommes heureuses avec Bénédicte Dujonquois d'ouvrir cette matinée avec une réflexion sur la communication en famille, donc vaste réflexion. Nous intervenons aujourd'hui avec notre casquette de conseillère conjugale et familiale rattachée au cabinet Raphaël, qui est un cabinet de conseillère conjugale, un cabinet chrétien. Nous sommes 18 ou 19, je ne sais plus, je crois 18 conseillères un peu partout en France. Bénédicte exerce ici sur Nantes, moi j'exerce à Rennes depuis quelques années. Donc notre métier, c'est d'accueillir des personnes seules, des couples ou des familles, et de venir questionner avec elles la question de la relation. En plus de ce travail d'entretien dans nos cabinets, nous avons aussi des occasions de parler en public, d'animer des chroniques radio, différents lieux extérieurs selon les appels qui nous sont faits. Voilà, nous travaillons beaucoup ensemble, donc avec Bénédicte très fréquemment. Et puis au niveau national, nous avons des occasions de formation continue, de week-end ensemble. Voilà, tout un travail d'équipe qui est important dans notre pratique professionnelle. Voilà, je propose que Bénédicte entame cette conférence sur la communication. Et maintenant, on plonge.
Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la communication en famille. C'est un sujet qui est assez inépuisable et c'est une chance que nous avons de pouvoir nous arrêter une journée pour aborder ce sujet. Alors, certains d'entre vous êtes venus avec des questions de jeunes parents, certains des questions de beaux-parents, des questions de fratrie, des questions de fils ou de filles de parents âgés, questions très larges. Voilà, le panel est très large de notre assemblée. Alors, la famille, nous le savons, c'est un laboratoire d'expérience de communication qui sont faciles ou difficiles. C'est le lieu, la famille, de notre appartenance sur cette terre. Toute notre vie, nous serons fils ou filles d'eux, frères ou sœurs d'eux, petits-fils ou petites-filles d'eux. Alors aujourd'hui, on communique beaucoup avec nos portables, les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est parfois, nous le voyons en tout cas en consultation, c'est souvent avec nos plus proches que c'est le plus dur de communiquer vraiment. En tout cas, on entend souvent ça. Et nous l'expérimentons aussi dans nos propres familles, alors comme moi. La famille, c'est du vivant. Et si c'est du vivant, c'est de l'imparfait. Dans nos familles, il y a des personnes qui communiquent très très bien et d'autres pour lesquelles cette communication, elle est quasi inexistante. Alors, petit exercice, 30 secondes. Vous choisissez dans votre tête deux personnes de votre famille et vous allez les garder en mémoire tout le long de cette conférence. Une personne avec laquelle la communication est facile et une personne avec laquelle la communication est plus difficile. Mais Anne-Laure, de quoi parle-t-on quand on parle communication ?
Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce terme de communication, il est bien vaste. Il peut être un peu fourre-tout. On va vous proposer, pour essayer d'avancer un peu sur ce terrain, de décortiquer ce terme en quatre niveaux différents. Alors, je commence avec le premier, c'est le plus basique, ça me va bien. C'est ce qu'on a appelé la communication civique. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand vous êtes arrivé dans cette maison. J'imagine qu'il y a eu des personnes qui vous ont dit bonjour, comment allez-vous ? Ils vous ont peut-être servi un café, vous avez peut-être dit merci. Tous ces petits mots qui semblent assez évidents, parce qu'on est poli et sociable en général. Donc en tout cas, quand on ne se connaît pas, on les emploie volontiers, tous ces petits mots du registre de la politesse. Et pourtant, peut-être que justement en famille, on peut avoir une légère tendance à oublier de les utiliser. Par exemple, ce matin, j'ai sauté du lit un peu vite, je me suis levée un peu tôt. J'ai peut-être oublié de dire juste bonjour à celui qui dormait à côté de moi et je suis partie comme ça. Peut-être que en rentrant hier du collège, mon ado, il est arrivé et il est monté directement dans sa chambre. Et j'aurais bien aimé qu'il vienne me voir et qu'il me dise ah ben salut, je suis rentrée, voilà, la journée s'est bien passée ou s'est mal passée. J'ai peut-être oublié aussi de remercier ma belle-fille qui pourtant, à la fin des vacances, avait laissé l'appartement qu'on lui prêtait impeccable. Peut-être qu'elle aurait apprécié ce petit mot. Merci, j'ai apprécié. Pris dans le feu de l'action, on peut oublier ce merci, ce bonjour, ce comment s'est passée ta journée. Chacun rentre fatigué, chacun part vaquer à ses occupations quand le soir on revient à la maison. Voilà, en un mot, ces petits mots que j'appelle les mots magiques, ils permettent que dans la famille, je me sente reconnue par l'autre. Je sois valorisée par quelque chose que j'ai fait, particulièrement important pour nos enfants, particulièrement important quand les relations entre beaux-parents et beaux-enfants peuvent être tendues. Un « s'il te plaît, peux-tu me passer le sel ?» c'est déjà reconnaître que j'ai quelqu'un en face de moi. C'est déjà le début de l'altérité qui est marqué là. L'autre en face de moi n'est pas un meuble. Parfois, on entend en consultation un conjoint dire à l'autre « mais j'ai l'impression que je suis transparente à tes yeux. Tu ne t'adresses jamais à moi comme à une personne. » Cette communication civique, c'est déjà ça qu'elle va apporter. Je pourrais croire que je suis tellement habituée à l'autre que je ne prends plus le temps de le voir pour qui il est. Alors vraiment, dans la famille, chacun compte. Et ce niveau de la communication civique, elle le prouve.
Le deuxième niveau de la communication, c'est l'information. L'information, c'est ce qui va faire qu'on va raconter notre journée. C'est le va-et-vient assez léger qui fait que les membres de la famille partagent leur quotidien. C'est indispensable dans la communication en couple et c'est indispensable dans la communication en famille. Mais l'information, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement partager par texto « n'oublie pas le pain ». Je suis dans le bus, j'arrive. Là, on est dans le niveau zéro de la communication, en tout cas utile, rassurant pour les mamans. Une sorte de cordon ombilical qu'est le portable. Et en général, il n'y a aucune communication civique et aucun mot magique. Non, ce dont je parle quand il s'agit d'information, c'est parler des faits. Tout simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, qui j'ai rencontré, mon travail. Tiens, il y a tel collègue, il m'a partagé ça, ou j'ai pu prendre un café avec un tel, la maîtresse, elle a dit ça. Ça nous semble une évidence, ça semble une évidence pour vous. Mais vraiment, quand nous questionnons des personnes, des couples, des personnes, nous sommes surprises. Est-ce que vous avez chaque jour au moins 5 minutes pour parler ? Pas forcément de choses importantes, mais de votre journée, de ce qui s'est passé autour de vous, avec votre conjoint, avec vos enfants. Et la réponse est souvent négative. « Oh non, on n'a pas le temps. » Et du coup, il peut arriver que certaines personnes, et particulièrement des hommes, des pères ou des grands-pères, débarquent dans l'organisation d'un week-end ou de vacances sans savoir qu'il y aura samedi matin telle conduite de foot à faire, tel apéro qui a été accepté par l'épouse chez les voisins, ou bien l'accueil des petits-enfants pendant les vacances. On apprend comme ça que oui, la grand-mère a décidé que c'était bon de les accueillir 15 jours, mais est-ce que le grand-père est au courant ? Très important, je parle pour ceux d'entre vous qui sont en couple, de ne pas prendre d'engagement de sortie qui concerne l'autre ou d'engagement qui concerne l'autre sans en avoir référé. Ça n'a jamais fait du mal de dire « écoutez, on vous donnera une réponse un peu plus tard ». Voilà. C'est très important dans cette communication de l'information. Ça, c'est entretenir le lien. Et on a tous fait la désagréable expérience d'apprendre une information qui est importante quelqu'un dans notre famille a oublié de nous partager. Tiens, j'apprends que notre nièce est enceinte depuis plusieurs mois. J'apprends que notre beau-frère a retrouvé du boulot. Tu le savais, tu ne me l'as pas dit. Ce défaut d'information, s'il se renouvelle trop souvent, crée une distance. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un manque d'information ? Eh bien, quand on ne communique pas sur ce qui fait le quotidien, on s'éloigne, on manque d'intérêt pour l'autre, et à la longue, on peut devenir indifférent. Et si on n'a pas ce niveau de communication d'information, on risque d'aller chacun sur son rail ou dans ses études, dans son travail. Et je pense par exemple à des enfants aussi, j'ai un petit exemple qui me vient, des enfants qui apprennent le soir à 20h qu'il y a une babysitter qui va venir les garder parce qu'il y a une réunion à la paroisse. C'est un petit peu violent, peut-être qu'on peut en amont leur dire déjà le matin ou le soir quand ils rentrent à 5h, de dire bah, ce soir, voilà, on n'a pas pris le temps quelquefois d'expliquer à nos enfants. Le smeigner sur le frigidaire, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. En tout cas, si le couple, le papa et la maman, ont vraiment pris l'habitude de raconter, de dire les informations, pour les enfants, ça va devenir plus naturel. En fait, c'est comme la trame d'un tissu. Voilà. Et donc, c'est entretenir, préserver le tissu qu'est le lien de la famille. Et ça permet d'accéder au troisième niveau.
Alors, le troisième niveau de la communication qu'on a discerné, c'est la communication au niveau de la pensée. Ça va être la communication de ce que je pense, de ce que j'ai appris, de comment j'y réfléchis. C'est une parole que je pose où je dis ce qui va être important pour moi. Ça va être mes opinions, ça va être mes avis sur une rencontre que j'ai vécue, sur ce qui m'intéresse, sur ce que j'ai actuellement dans la tête. Ça peut être suite à une émission que j'ai regardée à la télé qui m'a intéressée ou le dernier livre que je viens de lire. Est-ce que, en famille, par exemple, est-ce qu'on prend le temps de communiquer sur l'information, ce qui se passe dans le monde, le typhon au Japon, le match de rugby annulé, qui est peut-être tout aussi important? Est-ce qu'on aborde des questions autour des lois de bioéthique actuellement, le Brexit, avec ou sans accord? Tout ce qui fait notre vie, finalement, tout ce en quoi, dans quoi on est baigné, comment est-ce que je suis capable de le nommer, d'en parler à ceux qui sont à côté de moi? Est-ce qu'avec nos adolescents, on arrive à les questionner sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Tiens, t'as Instagram, montre-moi. Moi, j'étais surtout sur Facebook. Ah non, mais Facebook, maman, c'est déjà fini, là. Maintenant, c'est Insta. Ah ben, montre-moi comment. Voilà. Et qu'est-ce que t'en penses de ce réseau social? Est-ce qu'il est bien? Charge à nous, comme parents, de nous mettre aussi, comme parents ou comme enfants, de nous mettre aussi à questionner nos parents ou nos enfants ou nos beaux-enfants. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tel sujet? Voilà mon point de vue. Et tout ça, ça permet de partager quelque chose ensemble. Pour parler de ce que je pense et écouter ce que l'autre en pense, eh ben, ça suppose justement de poser ses écrans. Ça suppose de prendre le temps. C'est parfois un exercice de volonté, hein, mais de se dire là, on se pose ensemble autour de la table familiale, on se pose côte à côte, on se pose autour du feu, on va marcher.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Bénédicte Dujonquois et Anne-Laure Possel, conseillères conjugales, nous aident à mieux communiquer en famille.
Parfois, ce moment, il est provoqué dans l'urgence. Hein, c'est le fameux « faut que je te parle ». Alors là, il va y avoir quelque chose, on va tout arrêter, ça ne peut plus attendre. Mais parfois, c'est moi qui vais sentir que il faut que je saisisse l'occasion de parler. Je sens bien que c'est le moment de plonger. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon conjoint, il rentre et puis je le sens taciturne. Qu'est-ce qui t'arrive dans l'entreprise avec ton collègue? Voilà, je sens que belle-maman, elle semble triste depuis que beau-papa est décédé. Allez, je vais l'appeler, je vais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, on va arriver comme ça à un autre niveau de communication que Bénédicte va nous développer.
Le quatrième, c'est la communication au niveau des sentiments. Ça, c'est difficile. C'est-à-dire dire ce que je ressens. La communication civique, bon, on peut y arriver. Communication, l'information peut y arriver. La communication de la pensée, ce que je pense. Mais ce que je ressens, c'est souvent un peu plus difficile parce que c'est le registre des émotions. Vous savez que la langue française est très, très riche. Moi, j'ai été scotchée la première fois que j'ai lu le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », je ne sais pas si vous le connaissez, de Thomas d'Azembourg. Il y a toute la liste des sentiments, des émotions, voilà, quand je suis satisfait ou quand je ne suis pas satisfait. Et la langue française est très, très riche, mais nous, on a un langage assez pauvre, finalement. Je me sens heureux d'être près de toi ce soir. Je me sens très agacée par l'attitude de cet enfant. Je suis déconcertée par la réflexion de mon patron. J'ai été très surprise de cette réaction, de ta réaction. En fait, nous avons sans cesse des émotions. Nous le savons. La colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Mais nous les partageons très rarement en mots. Peut-être parce que nous manquons de vocabulaire et aussi peut-être parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas trop parler de nous et que ça va nous dévoiler de dire ce qu'il y a dans notre cœur. C'est quand même bien plus facile de parler de la pluie ou du beau temps que de dire ce que j'ai au fond de moi, me montrer vulnérable. Pouvoir dire que j'ai été blessée par telle parole, déçue de tel comportement. Et dire et verbaliser son émotion, nous on le voit quand en conseil conjugal, on peut avancer sur ce terrain-là. On voit combien les personnes, hein, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple, font un chemin de vie. Dans les relations familiales, c'est du bonus. On n'est pas qu'une tête qui pense, on est aussi un cœur qui ressent, qui souffre, qui se réjouit, qui vit, qui vibre. Mais quelquefois, c'est dur de savoir ce qu'on ressent, parce que nous-mêmes, on ne sait pas quelle émotion nous habite, ou on ne sait pas quelle émotion habite l'autre, et on prend une émotion pour une autre. Je pense à un enfant, par exemple, un collégien qui rentre très, très en colère chez lui, peut-être que vous avez des exemples proches, il jette son cartable, et franchement, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Et sa maman a pris le temps de le laisser et puis après peut-être de le questionner, mais de façon diplomate, avec tact. Et en fait, il n'a rien compris au cours de maths. Et il a un contrôle le lendemain. Et il a peur. Donc ce que la maman a pris pour une émotion de colère, de ras-le-bol, etc., en fait, c'était de la peur. La colère a comme kidnappé la peur. Elle n'a pas vu la peur. Il a pu l'exprimer grâce à l'accompagnement de sa maman. C'est ce qu'on appelle le racket d'émotions. Le racket d'émotions, je prends une émotion pour une autre. Quand on a quelqu'un en colère en face de soi, réfléchissons, est-ce que vraiment il est en colère ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je voudrais faire une petite parenthèse sur un lieu de partage des émotions où on ne se prend pas trop la tête, c'est les émoticônes. Vous savez, ces fameux smileys, on préfère dire avec Anne-Laure les émoticônes. Vous savez, celles qui apparaissent juste derrière moi et qu'on envoie sur nos portables pour illustrer ce qu'on vient d'écrire. Alors là, tout le panel y est dessiné. Mais qu'est-ce que l'autre comprend d'une émoticône? Moi, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie une émoticône, il y a une émoticône où il y a quelqu'un qui voilà, smiley, tire la langue. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, je me pose des questions. Je me dis, mais dans quel état est la personne en face de moi? Qu'est-ce qu'elle veut me passer comme message, etc. Dans nos mails, enfin pour certains, hein, dans les mails, les SMS, on met des smileys, mais pas de mots. Et donc l'autre doit décoder. Une commerciale qui écrit à son mari, j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui, avec le petit smiley, elle n'est pas content. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mon enfant étudiant qui m'écrit, demain j'ai un DS d'histoire, ça veut dire quoi? Donc derrière ces émoticônes, il peut y avoir un piège. Je donne une émotion, mais l'autre ne peut pas la comprendre. Et puis, comme on est très inégaux sur le sujet, on n'a pas tous les décodages, eh bien, c'est compliqué. Donc, nous, on vous invite à une petite vigilance là-dessus. Ça peut être pas mal de mettre un mot de notre vocabulaire si riche pour accompagner l'émoticône. Il y en a qui ne sont pas du tout dans le registre des émotions, dans ce quatrième registre, et d'autres qui le sont un peu trop. Je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée il y a des années et qui avait perdu son mari très brutalement. Et elle ne s'est pas arrêtée de travailler, la vie a repris dessus tout de suite, pas de temps de pause, l'action. Voilà, je l'ai revue quelques années après, et elle me disait en fait j'ai blindé, je ne voulais pas avoir accès à mes émotions, etc. J'ai blindé, et qu'elle a ouvert son cœur, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, de la colère, de tout ce qu'elle a vécu autour du deuil, etc. Et elle m'a livré combien cette attitude l'avait durcie. À l'inverse, je pense à une sœur, une frangine, hein, une sœur qui répondait toujours aux plaintes de son autre sœur. Son autre sœur disait, oh, tu sais, les parents, etc., les parents âgés, comment on va les accompagner? Et puis l'autre répondait, mais c'est pas grave, puisqu'on s'aime, on va y arriver, etc. Elle n'entendait pas que sa sœur, en fait, elle était paniquée devant la situation. Et là, quelquefois, on aide, tout va s'arranger, mais t'inquiète pas, c'est un peu la guimauve des sentiments dégoulinants. Et les personnes qui sont très, très dans l'émotion tout le temps, nous les invitons à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire d'être tout le temps dans cette émotion? Soit l'émotion de la colère, d'ailleurs, ou bien de la tristesse, ou autre chose. Et quelquefois, nous les femmes, nous sommes quelquefois un peu dans le registre des émotions, un peu plus que les hommes, pas tout le temps, mais parfois. Et quand on pousse nos conjoints en disant « donne-moi ton émotion » ou les enfants, etc., parce qu'on a fait des ateliers de je ne sais pas quoi, et bien quelquefois on peut dégoûter notre entourage familial là-dessus. Donc voilà, soyons à la fois prudents sur nos émotions, sachons les accueillir et sachons travailler pour en parler. Et dans tous ces registres, notre corps entier parle.
C'est toute cette communication non-verbale. Là, on vous parle avec des mots et vous nous écoutez avec vos oreilles, mais finalement, peut-être que le message principal qui passe, c'est à travers ce qui se passe dans le non-verbal. 90% du message, dit-on, passe par cette communication non-verbale. Qu'est-ce que mon corps vient dire, finalement, qui va parler peut-être à mon insu? Peut-être un défi, c'est de oser venir questionner cette communication non-verbale quand je la détecte devant la personne à qui je suis en train de parler. Peut-être, est-ce qu'on pourrait oser mettre des mots dessus? C'est une jeune fille qui tient son portable comme ça, qui a l'air plutôt renfrognée. Alors imaginez que ce soit votre fille ou votre nièce ou la fille d'un de vos amis. Vous la retrouvez et vous y croiriez si cette fille, elle vous disait « Non, non, mais tout va très bien. Non, non, mais ça va, pourquoi tu t'inquiètes ?» Alors que tout, dans son attitude, dans sa posture, semble dire l'inverse, ce regard dans le vague, cette main crispée, cet air triste. Et alors parfois, on peut avoir tendance à croire qu'au mot, quoi, en disant « bon, ben, si elle me dit que tout va bien, tout va bien ». Comment est-ce que c'est possible peut-être de questionner « mais j'ai l'impression que ça ne va pas trop en ce moment pour toi, il me semble que tu es soucieuse ». Voilà. Comment est-ce que finalement, par la communication non-verbale, il y a énormément de choses qui se disent dans nos entretiens, ce qu'on vient dire aussi parfois avec nos mains, avec nos gestes, pour relier des personnes que nous recevons entre elles. C'est souvent plus éloquent que ce qu'on peut avoir dans la bouche à dire. Et ce regard que j'échange avec quelqu'un, est-ce que ça va être un regard de complicité, un regard d'accueil, ou au contraire, un regard glacial, ou un regard d'indifférence, encore pire? Et ce sourire que je vois sur le visage de l'autre, est-ce que je le reçois comme un sourire jugeant, ironique, ou un sourire qui m'invite à aller dans la relation? Et puis, n'oublions pas, dans la communication, il y a aussi ces moments de silence. Alors, il y a des silences qui parlent. On les entend parfois en entretien, Bénédicte, quand on voit la personne en face de nous comme rentrer en elle-même pour s'écouter, pour se comprendre, pour se voir vivre, relire des choses. Il y a des silences habités qu'on éprouve, par exemple, quand on est allé regarder un film ensemble, et puis le générique passe, et en fait, on ne bouge plus. Et la salle reste en silence, et c'est un silence qui dit beaucoup de choses. C'est un silence qu'on peut éprouver quand on prie ensemble, dans une communauté ou dans une famille, ou quand on est dehors dans la nature, et qu'on regarde ces étoiles filantes en plein milieu du mois d'août. Personne ne parle, on attend cette étoile filante. C'est l'expérience unique que l'on peut parfois dire de se comprendre sans se parler. Il n'y a pas besoin de se parler, il y a plein de choses qui se disent entre nous. Mais il y a aussi, et ça probablement on l'a tous expérimenté, il y a aussi des silences vides, des silences qui deviennent insupportables. Je me souviens d'un homme qui accompagnait sa maman très âgée, qui était veuve, et qui disait « mais j'arrive plus à rejoindre maman, en fait elle se renferme, elle ne dit plus rien. Et quand je vais la voir, j'appréhende ce silence. C'est insupportable pour moi. Je ne sais pas du tout où elle en est. Je ne sais pas comment la rejoindre. » Je vais vous proposer maintenant de vous remettre au début de la conférence, quand Bénédicte vous avait proposé de penser à ces deux personnes de votre entourage. Celle avec qui vous vous êtes dit la communication est facile et celle avec qui vous vous êtes dit la communication est plus compliquée. Et alors, en reprenant ce prisme des quatre registres de la communication et de la communication non-verbale que nous vous avons proposé de voir ensemble ce matin, essayez peut-être de repenser à cette personne avec qui c'est facile finalement. Pourquoi c'est facile avec lui, avec elle? Sur quel registre on communique bien? 1, 2, 3, 4. Peut-être ils sont tous là, peut-être il y en a un ou deux. Et puis la personne avec qui c'est difficile, pourquoi est-ce que c'est difficile? Peut-être qu'il y a un registre qui est très bloquant. Voilà, prenez ce petit temps pour vous, pour essayer de mettre des mots sur cette facilité et cette difficulté de communication.
Alors après cette première partie sur les niveaux de communication.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Bénédicte Dujonquois et Anne-Laure Possel, conseillères conjugales, nous aident à mieux communiquer en famille.
Nous allons aborder maintenant ce qui va faciliter la communication. Dans ce qui va faciliter la communication, il y a d'abord premièrement ma façon de parler. Ma façon de parler. Et dans ma façon de parler, il y a ce que nous avons appelé passer du tu au je. C'est quoi dire je ? C'est dire ce que je ressens devant une situation, on en a parlé tout à l'heure. Et ça veut dire d'abord avoir regardé la situation. C'est ce qu'on appelle les faits, rien que les faits. L'observation. La pente naturelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le reproche. On le sait tous, reproche envers notre conjoint, envers nos parents, envers nos frères et sœurs, envers nos enfants, envers nos beaux-frères, belles-sœurs. Le reproche, c'est ce que Jacques Salomé illustre en disant « le tu qui tue, la communication klaxonne ». Alors en couple, ça va être « t'es toujours en retard, tu dépenses trop, t'es toujours au téléphone, tu t'occupes pas de moi, tu devrais faire ci, comme ça », et bien autre chose. Avec les enfants, tu ne ranges jamais tes affaires, tu es encore habillé n'importe comment, tu aurais dû plus travailler ton devoir, et ça, que nos enfants soient petits, ados ou adultes, adultes devenus parents. Le pire étant souvent, tu me déçois. Disons, il faut vraiment qu'on se dise que la critique et le reproche, c'est des mauvaises herbes, qui sont dangereuses pour la vie de famille. Dire « je », ça va m'impliquer, me donner une place unique qui va m'empêcher de basculer dans ton territoire. Et j'insiste vraiment sur le « je » parce que souvent, nous ne l'employons pas, souvent par éducation ou bien quelquefois refus de se remettre en cause. C'est tellement plus facile que l'autre en face soit le coupable ou le responsable. Par exemple, dire à son ado « tu rentres avant minuit, c'est comme ça, tu discutes pas », ça peut donner envie de transgresser. Alors que « je suis inquiète quand tu rentres après minuit, j'ai peur que tu te fasses agresser et je te demande de rentrer avant minuit », c'est souvent plus entendable. Ou bien par exemple, une maman qui est assez énervée et qui dit à ses petits « écoutez, franchement, allez dans votre chambre, vous me saoulez ». Eh bien, elle a quelquefois moins de chances de se faire comprendre que la maman qui va dire « écoutez, je suis fatiguée, j'ai besoin de calme et je vous demande d'aller dans votre chambre ». Entre parenthèses, de demander un peu de calme aux enfants en les mettant dans leur chambre, ça n'a jamais fait de mal à personne. Nous voyons parfois en conseil conjugal des femmes qui sont un peu agressives au démarrage et qui en veulent à quelque chose, donc qui reprochent beaucoup de choses à leur conjoint et qui reprochent souvent d'ailleurs une activité professionnelle qui est trop prenante. Et en fait, le jour où elles peuvent dire, et on voit comment ça peut se passer, quand elles peuvent commencer par dire « je » en disant « en fait, je suis jalouse ». Moi, j'ai eu ça une fois, en fait. « Je suis jalouse. J'aurais aimé, moi, avoir un travail aussi reconnu que le tien. Et moi, ma peur, c'est de ne pas être considérée. » Et son agressivité faisait écran à une relation qui aurait pu être plus saine et qui est devenue plus saine. Parce que quand elle a pu exprimer son besoin vital de reconnaissance en disant « je », la relation a été rétablie. Dire « je », ça demande une véritable discipline dans la communication et ça s'apprend. Et je crois que nous aurons tous et toutes à apprendre ça jusqu'à la fin de notre vie. Après de passer du « tu » au « je », ce que nous avons appelé « passer de la plainte à la demande ». On l'a dit, la pente naturelle, c'est plutôt le journal télévisé, voir tout ce qui ne va pas, le reproche, la critique, voilà. Et on voit bien que quand on est dans le reproche ou la critique, le résultat, ce n'est pas celui qu'on souhaite. Parce que la critique comme le reproche, ça sape le moral, ça enlève l'énergie, ça casse l'enthousiasme. Et du coup, il y a fermeture des deux personnes. Et très souvent, alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, très souvent, nos plaintes sont des demandes déguisées. Il faut passer de la plainte à l'audace d'oser demander. Ce n'est pas mal élevé de demander. Et je crois qu'on apprend mal à nos enfants à demander. Peut-être qu'on nous a mal appris à demander. Et nous, les femmes, nous sommes particulièrement douées pour mal demander. Je prends un petit exemple. Madame, à midi, dit un samedi à son mari, « Écoute, il y a le film... » Allez, je vais prendre c'est un exemple qui m'est venu il y a longtemps. C'était au moment où il y a eu le film « Intouchable ». Il y a un film super, c'est intouchable. Donc le mari dit, ah bon, très bien. À 14h, tu sais que les voisins sont allés voir Intouchable. À 6h, c'est quand même dingue, on ne fait jamais rien. À 8h, soupe à la grimace, et j'en passe. Dimanche matin, mais pourquoi tu boudes? Tu n'as pas voulu aller au cinéma avec moi. Ça vous parle? Voilà, et nos plaintes sont des demandes pas exprimées, des demandes déguisées. C'est l'exemple aussi d'une jeune maman qui vivait à l'étranger et qui revient l'été avec son bébé, voilà, et revient dans la maison familiale d'été. Cette jeune femme, cette jeune maman est assez bazar. Et donc, il y a dans une pièce commune assez petite, il y a les affaires, les duplos par terre, un biberon sale, bon, voilà. Et puis, la maman soupire tout l'été. Bon. Et puis, l'été suivant, elle a fait un atelier sur la communication, les outils de communication, et elle se dit, je vais m'y prendre autrement. Et donc, quand sa fille arrive avec son enfant, l'été suivant, elle lui dit, écoute, en fait, j'ai besoin en fait, que la pièce commune soit rangée. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'ordre. Cette pièce, elle est petite. C'est une pièce commune où il y a pas mal de gens qui passent. Donc, en fait, j'ai besoin que ce soit rangé. Et donc, je te demande de voir si régulièrement, tu peux voir s'il y a des choses qui t'appartiennent ou à ta fille, de les mettre dans la chambre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu difficile. Voilà. Et la fille lui dit, mais c'est tellement plus facile, maman, quand tu me dis les choses comme ça. Je voyais bien que l'été dernier, il y avait un truc qui n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, oser demander. Mais une vraie demande, quand nous faisons une demande, nous devons accepter de rencontrer un refus. Il y a beaucoup de malentendus qui pourraient être évités entre adultes d'une même famille si les demandes étaient formulées clairement, en te reconnaissant la possibilité de dire non. Ce n'est pas parce que tu me dis non que tu me rejettes. C'est simplement que tu dis non, ça ne te convient pas, c'est tout. Demander, ce n'est pas exiger, et refuser, ce n'est pas rejeter. Et je prends un exemple. Pour les grands-parents, par exemple, un couple avec des jeunes enfants demande aux grands-parents « Est-ce que vous pouvez venir garder les enfants ?» Ils habitent la même ville. « Est-ce que vous pouvez venir garder les enfants samedi prochain, samedi soir ?» On est jeudi. Les grands-parents, ils ont un truc le samedi soir et ils se disent « Oui, d'accord. » En fait, ils disent « Oui » tout en disant « Non » parce qu'en fait, ils ont un truc qu'ils n'ont pas envie d'annuler. Mais ils disent « Oui » quand même. Et du coup, ils se plaignent intérieurement, ils ne sont pas très accueillants et puis après, ils vont se plaindre auprès de leurs amis. Sauf que s'ils avaient dit, écoutez, nous, non, on est désolé, on a un engagement et c'est très important pour nous, bah, le jeune couple, il se débrouillait. Mais ils n'ont pas voulu dire non parce qu'ils se sont dit, faut qu'on accepte, quoi. Bon. À l'inverse, un jeune couple, les grands-parents, les beaux-parents, les invitent le dimanche à déjeuner. Allez, vous allez bien venir déjeuner dimanche. On est jeudi. Et le jeune couple n'a pas osé dire non. Et en fait, du coup, ça sort en « tes parents nous invitent tous les dimanches », ce qui n'est pas vrai. Mais s'ils avaient pu dire « écoutez, non, c'est vrai qu'on viendra un autre dimanche, mais ce dimanche, on a vraiment prévu d'être tous les cinq et on va chercher des champignons dans les bois », eh bien finalement, tout le monde était plus content parce que sinon, ça fait de la rancœur et ça fait de la plainte intérieure. En tout cas, c'est tellement plus facile de refuser, de dire « non, je ne peux pas » ou « oui, je peux ». Que ton « oui » soit « oui », que ton « non » soit « non ». Dernière partie dans ma façon de parler, après le tu au jeu, la plainte à la demande, de la fuite à la discrétion. Comment arrêter cette spirale de voir tout ce qui ne va pas en toi, ma belle-fille, mon gendre, mon mari, ma femme, ma sœur, ma mère? Comment est-ce que je peux faire pour arrêter cette spirale parce que ça me prend le chou? Eh bien, ça va être d'arrêter d'en parler à tout vent. C'est ce que j'appelle le stop à la fuite de l'intimité. Plus je vais me complaire dans ce qui ne va pas, plus je vais alimenter mon amertume envers toi. Et cette fuite de l'intimité, on le voit, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais quand même, chez nous, les femmes, on aime bien raconter nos histoires et nos histoires de ceux qui sont chez nous dans notre famille. Et quand on raconte. Alors, partager avec des personnes dont on est sûr parce qu'on a un sac à porter et qu'on a envie de le déposer, c'est tout à fait bon. Enfin, je crois qu'il faut pouvoir le faire. Mais peut-être en choisissant les personnes. Nous parlons beaucoup des autres. Si nous avons un souci de relation dans notre famille, ne nous répandons pas à tout vent. Comment est-ce que je parle de mon mari? Comment est-ce que je parle de ma femme, de mes beaux-parents, de mes enfants? De quelle manière et avec qui? Qu'en est-il de la discrétion sur les réseaux sociaux? J'accepte de devenir l'ami de mes enfants et je me retrouve, ça on l'a vu nous en consultation, et je me retrouve à savoir des choses que je n'ai pas à savoir. Qu'est-ce qui fait que je poste des photos de mes enfants et de mes petits-enfants, là je m'adresse aux grands-parents, sans avoir demandé l'autorisation? Ou bien quand je livre mes états d'âme sur des forums, des blogs, voilà. Attention à la fuite de notre intimité familiale.
Voilà, ce qui va faciliter la communication, donc Bénédicte l'a dit, ça va être la façon que j'aurai de parler. Et ça va être aussi cette capacité que je vais avoir à rester bien ancrée dans la réalité. Alors ça veut dire quoi être ancrée dans la réalité? Ça va être déjà avoir cette capacité de faire mémoire des bons moments que nous avons vécus en famille. Se souvenir des bonnes choses. Regarder ensemble les photos que nous avons prises. Regarder ces vidéos. Ça, c'est être ancré dans la réalité. C'est quelque chose qui a vraiment existé. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. J'ai une vraie difficulté à parler avec cette belle fille. Pourtant, quand je regarde les photos du mariage, je me dis qu'il s'était passé des belles choses à ce moment-là. On avait vraiment pu échanger. La relation a évolué, c'est sûr. Mais pourtant, ça a existé. Ça a été la réalité. Faire mémoire des bons moments, ça peut être aussi vraiment aidant quand mes deux ados n'arrêtent pas de se tirer dessus à longueur de journée. Et que du coup, c'est des disputes et des cris dès qu'ils rentrent du lycée. Et de se redire ensemble, mais rappelez-vous ces vacances que nous avons passées à tel endroit sur la plage. Et vous aviez fait ce concours de château de sable et on l'avait gagné ce concours. Et c'était tellement bon. Vous avez eu des moments de qualité entre vous. Et ça, c'est la réalité. Ça a existé. Savoir se souvenir des bons moments, ça peut être un outil facilitant pour dépasser les incompréhensions, y compris les incompréhensions conjugales. Oula, il y a de la friture là sur la ligne en ce moment. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, peut-être que ce serait possible de relire un peu notre histoire. Comment est-ce que dans le passé, nous avons fait une fois pour sortir d'une incompréhension? Ah oui, là, on n'était pas du tout d'accord. Tu te souviens? Moi, je voulais inscrire mon fils au foot. Parce que moi, j'ai été toujours fouteux et que c'était hyper important. Et toi, tu trouvais que c'était plutôt la musique qui allait l'épanouir. Et on s'était engueulé là-dessus. Et puis finalement, on avait trouvé une solution parce que quand on avait interrogé le fiston, bah lui, il voulait faire du chinois. Donc, on l'avait inscrit au cours de chinois le mercredi. Savoir relire ces moments de tension, ça peut rassurer. Et de se dire, on n'a pas toujours été en désaccord. Ou si on l'a été, on a déjà réussi à trouver une façon de s'en sortir. On le travaille, nous, beaucoup en conseil conjugal, hein, avec des personnes que l'on reçoit, de leur faire relire ces bons moments, pas pour être dans la méthode Coué en se disant « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver », mais en s'appuyant sur quelque chose qui a fonctionné. Si ça a fonctionné une fois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de le refaire marcher, de réactiver ce qui a fait que j'ai pu sortir d'une situation difficile une fois? C'est dans cette même logique, hein, que dans les familles, on se raconte des histoires qui sont qu'à nous. Vous savez, parfois autour de la table, on va balancer cette anecdote ou cette réplique de film, tout le monde va rigoler. Puis il y a l'invité qui est là au bout de la table et qui regarde en disant « mais de quoi il parle ?» Parce qu'en fait, dans la mémoire collective, ça fait écho à quelque chose qu'on a partagé. Il n'y a même pas besoin de mettre des mots dessus. Et tout le monde, tout le monde est de connivence. Alors, grands-parents, n'hésitez pas à raconter à vos petits-enfants de beaux souvenirs sur vos enfants, leurs parents à eux. Le « tu te souviens quand on parle comme ça à son enfant ?» Tu te souviens quand on était partis ensemble et qu'on avait fait cette balade, c'était incroyable ce qu'on avait échangé ce jour-là, et tu m'avais raconté, ta ta ta. Alors ça donne de l'énergie dans la communication. Ou tu te souviens la première fois que tu es arrivée dans la famille? Ça, c'est la belle-mère qui parle à sa nouvelle belle-fille, quelques années après. La première fois que tu es arrivée à table, tu te souviens l'énorme gaffe que tu as faite? Et puis hop, elle reparle de ce qui aujourd'hui peut faire rire. Voilà, faire mémoire de ses souvenirs. C'est bon, ça aide à fluidifier la communication.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Bénédicte Dujonquois et Anne-Laure Possel, conseillères conjugales, nous aident à mieux communiquer en famille.
Alors, être ancré dans la réalité, c'est aussi ne pas craindre les désaccords. La réalité, elle est faite parfois de ces désaccords. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, être capable de dire ce désaccord, ça vient souligner que chacun est en capacité d'exprimer son point de vue. Il y a une phrase qu'on garde en couple qui nous a vraiment aidés, qui est « pas de contact sans frottement ». On nous a dit ça quand on se préparait au mariage. Donc si ça frotte, c'est bon signe, c'est qu'il y a encore du contact entre nous et qu'on n'est pas sur deux rails parallèles ou divergentes complètement. Ça prouve qu'on reste en lien. Donc le frottement, c'est pas grave. Et souvent, on pourrait croire qu'il faudrait des relations lisses, sans tension. Je déteste le conflit. Ça, c'est des choses qu'on entend parfois en conseil conjugal. Et donc, comme je déteste le conflit, je vais tout faire pour l'éviter. Pourquoi est-ce qu'il y a cette croyance? Souvent, derrière cette croyance, il y a beaucoup de peur. Parce que si je me fâche avec quelqu'un, peut-être que cette personne ne va plus m'aimer. Si je montre que je n'ai pas le même avis, peut-être que cette personne va se détacher de moi. Ou j'ai peur de décevoir si je ne me montre pas parfaitement d'accord avec l'autre. J'ai peur de souffrir, parce que si jamais j'ose dire que je ne suis pas d'accord, peut-être qu'on va s'échanger des mots qui vont nous faire mal. J'ai peur que la relation, elle cesse, que la relation se rompe parce que j'ose dire que je ne suis pas du même avis. Or, il est normal, je leur dis encore une fois, il est sain même d'avoir des désirs différents, d'avoir des besoins différents et d'avoir la capacité à se le dire. Le tout, c'est de pouvoir les exprimer et de pouvoir entendre ce que l'autre a à dire. Et là, je reviens au début de notre topo. Sans crainte d'être a priori sur deux niveaux différents et de se dire qu'ensemble, on va pouvoir trouver quelque chose qui nous convienne à tous les deux. Sachant qu'en plus, dans une famille, particulièrement dans un couple, nos propres besoins, ils évoluent avec le temps. Parce que chacun des membres du couple, des membres de la famille évolue, mûrit. Ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Oui, j'ai changé. J'ai plus besoin de la même chose qu'avant. Avant, j'adorais quand tu préparais le dîner le dimanche soir et que du coup, moi, je pouvais me mettre devant la télé et c'était un moment formidable. Aujourd'hui, je ne supporte plus en fait cette habitude-là. Pour moi, le dimanche, au contraire, il faut qu'on sorte, il faut qu'on en profite. J'en sais rien. Des choses qui étaient valables à un moment qui ne le sont plus aujourd'hui. Sans parler de toutes les causes externes qui peuvent venir m'impacter, qui peuvent impacter l'autre, qui peuvent impacter notre couple, qui peuvent impacter notre famille. La maladie, le chômage, un déménagement, un deuil à vivre. Tout ça peut fragiliser les membres de la famille. En tout cas, va modifier les relations. Et en permanence, il est nécessaire de se réajuster d'abord à soi-même et ensuite avec les autres. C'est bien ça qui fait que la famille est un lieu qui bouge, un lieu vivant. Les personnes, nos relations grandissent, évoluent, vieillissent. Et nos besoins suivent la même chose, évoluent aussi. Il faudra nécessairement en permanence s'ajuster avec le temps, même si cela peut créer des désaccords. Il y a un exemple qu'on travaille très souvent en conseil conjugal et qui parle a priori à tout le monde, c'est celui des vacances. Tiens, arrivent les vacances de la Toussaint, est-ce que vous avez des vacances? Oui, il se trouve qu'on en a tous les deux. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, comme d'habitude, on se rend au cimetière pour aller sur la tombe de beau-papa et puis après, on va dans l'autre famille parce qu'il y a toujours le repas le 1er novembre. Ah bon, et ça vous convient que ce soit toujours comme ça? L'un va dire oui, c'est comme ça, et l'autre va dire non, mais je supporte plus. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on parte 3 jours à l'autre bout de la France pour s'aérer. Mais, tiens, et c'est la première fois que j'entends cette femme, que cette femme s'entend dire à elle-même, ça ne me convient pas, je n'ai jamais osé le dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau? Être ancré dans la réalité, donc c'est être capable de faire mémoire des bons moments, c'est ne pas craindre les désaccords, et c'est aussi arrêter de me faire des films. Est-ce qu'il vous arrive à vous de vous faire des films parfois? De vous dire des choses qui en fait ne sont pas. Il m'arrive parfois de penser pour l'autre, de ne pas oser lui dire quelque chose parce que je pense que si je lui dis ça, il va se dire que... Et là, je me mets à imaginer un espèce de dialogue qui n'a même pas eu lieu, où je pense pour moi, je pense que l'autre va penser ça, donc va me dire ça, et donc finalement, bref, je ne dis plus rien. Mais ça, c'est que mon imagination qui a fonctionné. Quand ça arrive, je ne suis plus du tout ancrée dans la réalité. C'est quand je me dis à moi-même des phrases comme « ça ne sert à rien que je lui raconte de toute façon cette conférence ce matin ici, parce que ça ne va pas l'intéresser. Si je lui parle de cette émission que j'ai vue hier, elle va trouver que je suis vraiment bête, quoi. Je ne suis pas certaine vraiment de ce que je pense sur des questions, je ne sais pas moi, la question du Brexit, j'y comprends pas grand-chose intuitivement, je pense que, mais je ne suis pas si sûre, donc je préfère ne rien dire parce qu'il va me trouver bête sinon... Je suis sûre qu'il ne sera pas d'accord, alors je préfère rien dire. Je n'ai pas parlé des notes de mon fils à mon mari parce que je suis sûre qu'il va être beaucoup trop sévère, alors du coup, je ne dis rien. Je ne vais pas partager nos soucis d'argent. Je sais qu'elle va s'inquiéter. Voyez, dans tous ces exemples, je suis en train de penser pour l'autre. Peut-être par expérience, parce qu'une fois c'est arrivé, et donc je me dis, voilà comment l'autre va réagir. Or, il est important, il est fondamental même de se redire qu'en famille, même avec ceux que nous avons l'impression de connaître très bien, parce que c'est un conjoint avec qui je suis depuis longtemps, parce que c'est un enfant que j'ai mis au monde, parce que c'est une belle-sœur que je connais depuis 25 ans, personne n'a la capacité de penser, de réfléchir, d'agir, ni même de ressentir pour l'autre, à la place de l'autre. Je ne peux pas penser pour mon enfant. Je ne peux pas penser pour mon conjoint qui restera toujours pour moi une terre étrangère, un mystère. Même si elle semble rabâcher toujours la même chose, je ne sais pas ce que ma vieille mère atteinte d'Alzheimer pense fondamentalement. Je ne sais jamais pour l'autre. Vous savez, parfois, on entend dans un couple quelqu'un dire « je sais ce qu'elle va répondre, mais Et quand j'entends ça en entretien, je viens toujours questionner, qu'est-ce que ça vous fait quand votre conjoint commence sa phrase en disant « je sais ce qu'elle va dire ». Et en général, ce que j'entends, et en tout cas moi, ce que j'éprouve quand ça m'arrive, c'est franchement de l'agacement. Comment l'autre sait ce que je vais dire, alors que je n'ai même pas ouvert la bouche? Ou alors, quand un conjoint va dire « je t'en avais pas parlé, je savais comment t'allais réagir ». Mais comment tu le savais? Qu'est-ce qui te permet de dire ça pour moi? Voilà, tous ces films qu'on peut se faire. En général, on n'aime pas que l'autre parle pour soi. Et pourtant, il peut nous arriver de le faire, parce que c'est assez facile, finalement, de parler pour l'autre. Ce que je pointe là, c'est vraiment important. Cesser de faire tourner en soi ces boucles, ces films intérieurs, qui font les questions et les réponses, comme si l'autre était en moi ou que moi j'étais en l'autre et que je savais pour l'autre. Ce film intérieur, il mine la place d'un dialogue réel avec l'autre. Alors j'illustre avec une petite histoire drôle qui a pu arriver. C'est un vieux couple. Peut-être ça fait 65 ans qu'ils sont mariés, peut-être plus. Et quand ils partagent le poulet, lui prend toujours la cuisse, elle prend toujours l'aile. Parce que lui est persuadé qu'elle préfère l'aile, donc il prend la cuisse. Et elle est persuadée qu'il préfère la cuisse, donc elle prend l'aile. Et un jour, un jeune neveu vient partager leur repas ce jour-là. Et il demande poliment à madame, sa tante, « qu'est-ce que je te sers ?» Et c'est le mari qui répond « donne-lui l'aile, c'est ce qu'elle préfère. » Elle le regarde ahuri, et là tout d'un coup, ils réalisent mutuellement que depuis 65 ans, il faisait manger à l'autre le morceau que l'autre n'aimait pas. Il aurait été intéressant de cesser le film intérieur un peu plus tôt.
Tant que c'est des histoires de poulet, ça va. Alors, dans ce qui va faciliter la communication, on a parlé de ma façon de parler, être ancré dans la réalité, et la dernière partie qui va un peu conclure, poser un regard de confiance sur l'autre. Poser un regard de confiance sur toi, ça va commencer par donner des signes de reconnaissance. Encourager, valoriser. La confiance, c'est croire en ceux qui m'entourent. Croire en l'autre, donc, c'est poser un regard confiant sur ce que tu fais, ce que tu es, sans être naïf ni béat. Hein. Il ne s'agit pas de naïveté. Mais je pose un regard confiant sur ce que tu dis, ce que tu fais. J'encourage et j'accompagne. Je prends l'exemple d'un ado très distrait qui perd tout le temps ses affaires et il laisse ses affaires de sport dans le bus et j'en passe. Mais en fait, il est plus que distrait. Et ça, j'ai à le voir. Et du coup, je peux aussi l'aider à faire des pas dans la confiance. Il a réservé, par exemple, tout seul son billet de train pour rejoindre son copain dans le Finistère pendant les vacances, sans se tromper. Et en plus, il va changer à la gare de Vannes tout seul. Et là, je vais pouvoir l'encourager. Il n'est pas que le jeune distrait. Oser la confiance, ça ne veut pas dire de cesser d'éduquer ou de s'abstenir de toute discipline, mais c'est poser un regard qui croit en l'autre, qui lui laisse sa place d'agir. Alors, je raconte souvent cette petite histoire, vous l'avez déjà entendue, mais ce n'est pas grave, je me régale en la racontant. Françoise Zolto, je l'ai entendue la raconter, donc c'est très fort. Donc c'est le moment où elle faisait ses émissions de psy sur France Inter. Et elle avait son fils Carlos qui avait 4 ans. Et Françoise Dolto, le samedi soir, reçoit des amis et sort le grand jeu de la vaisselle de la grand-mère. Et le lendemain matin, il faut ranger. Et Carlos arrive dans la cuisine et disant « Maman, est-ce que je peux t'aider ?» Et elle, « Je suis Françoise Dolto, donc comment je réagis ?» Eh bien écoute, prends le plateau de verre, les verres de la grand-mère, et écoute, prends-le et va le mettre sur la table de la salle à manger. Elle donne des verres à pied et Carlos fait tout tomber juste avant d'arriver. Il se prend les pieds dans le tapis de la table à la salle à manger. Et là, elle lui dit « Bravo, tu es allé jusque-là ». Je trouve cette histoire magnifique. Le regard de confiance, c'est renoncer à dire « il ne saura jamais, il ne saura pas porter les verres ». Et d'ailleurs, en famille, c'est très important ces petits mots, vous savez, « toujours, jamais ». On est très fort là-dessus. « Tu fais toujours ça, c'est toujours, c'est jamais ». C'est des phrases assassines, en fait. Mon mari est incapable de garder les enfants pendant que je pars. Ah oui. Ma femme ne saura jamais expliquer aux artisans quels travaux il faut qu'on fasse. Ma belle-mère n'est jamais contente de garder nos enfants, etc. Et parfois, ça oblige à se redemander, mais au fond, qu'est-ce que j'aime ? Mon mari, ma femme, mon enfant, ma mère, ma belle-mère, ma sœur. Quelquefois, c'est difficile de répondre à cette question Parce qu'avec la routine, le temps, l'habitude, le stress, en fait, je ne vois pas. Eh bien ça, figurez-vous que ça se choisit. Nous pouvons choisir d'enfermer la personne dans ce qui nous insupporte ou choisir de l'aimer. Mais ça, c'est une conversion qu'on a tous à faire jusqu'à la fin de notre vie. Je pense à ceux qui ont, par exemple, des nouveaux gendres, des nouvelles belles-filles, des nouveaux beaux-frères, des nouvelles belles-sœurs. Parfois, c'est franchement un réel défi de choisir d'aimer cette personne qui n'a pas les mêmes codes que nous. C'est un défi. Poser un regard de confiance, ça va être se rappeler sans cesse que personne n'est réduit à son comportement. Ce n'est pas un enfant timide, c'est un enfant qui a du mal à s'inclure à un groupe. Ce n'est pas une femme dépensière, c'est une femme qui a du mal à gérer un budget. Ce n'est pas une belle-mère intrusive, c'est une belle-mère qui ne sait pas rester à sa place. Ce n'est pas une belle-fille désagréable, c'est une belle-fille qui ne se sent pas à l'aise chez nous. Et pour finir cette partie, je voudrais évoquer la figure de Jean Vanier, se mettre en confiance en l'autre. Jean a dit un jour, a raconté cette histoire, et je finis ma partie là-dessus, après je laisserai Anne-Laure conclure. Un membre de la communauté est venu le voir, une femme, en lui disant, écoute, cette sœur de communauté, je ne peux plus la voir. Franchement, tu me changes de communauté, Jean, parce que je n'en peux plus. Et il lui a dit, écoute, tu vas aller voir quelqu'un de la communauté et tu vas lui demander de te dire du bien de cette personne, de cette sœur de communauté. Tu vas aller la voir et tu vas demander qu'elle te dise du bien. Et je pense que ça peut être une piste pour nous quand nous avons du mal avec quelqu'un dans notre entourage familial proche, de pouvoir aller voir quelqu'un d'autre et lui dire, est-ce que tu peux me dire les qualités? J'en ai besoin en ce moment, j'ai simplement besoin que tu me les rappelles, que tu me le dises, ça m'aidera à mieux aimer. Et je finis avec cette phrase de Jean qui dit, aimer, c'est dire à l'autre, je me réjouis de ta présence.
Voilà, on avait juste pour ambition de soulever en vous, à travers ces quelques idées, de soulever en vous des questions sur comment ça se passe la communication dans votre famille. Et puis vous aurez largement le temps, cette fin de matinée, cet après-midi, de continuer à explorer ces pistes de communication. Mais se poser ces questions ici, là, aujourd'hui, maintenant, c'est déjà chercher à communiquer autrement. Alors on va proposer de repenser toujours à ces deux mêmes personnes là avec qui vous cheminez depuis une heure. Prenez juste quelques instants là pour souligner peut-être pour vous ce qui a fait résonance. Quelle attitude de communication finalement je veux garder en repensant à cette façon dont je communique facilement et puis tout ce que j'ai pu entendre là sur ces différents éclairages de communication. Quelle attitude de communication je veux garder et quelle attitude de communication je pourrais décider de changer? Voilà, on vous laisse juste avec ces questions et en vous souhaitant une bonne suite de journée et de réflexion.
Vous venez d'entendre une conférence enregistrée à Nantes le 12 octobre 2019. Bénédicte Dujoncois et Anne-Laure Possel, conseillères conjugales pour le cabinet Raphaël, ont développé les différentes formes de communication pour mieux communiquer en famille. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radio-radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.